Bonjour mes frères et sœurs. Je voulais remercier Seigneur qui nous donne cette occasion de voyager à Martinique pendant 10 jours. Une vacance très tense. Mais merci Seigneur que moi avec Hélène, nous pouvons bénéficier ce temps pour remplir, pour charger, retrouver l'énergie. Voilà. Merci. Et aussi, nous pouvons aussi prendre un temps avec Valérie aussi. Valérie et Chapina. Donc, je connais mieux pendant 10 jours de vacances. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce temps, pour te louer, pour t'adorer, pour t'écouter ta parole, pour bénéficier ce moment de repos dans ta maison. Et je prie Seigneur que ton esprit soit avec nous tous, soit la personne qui prêche, soit la personne qui écoute ta parole. Nous pouvons vraiment comprendre ta parole et vraiment mettre en pratique dans notre vie chacun ici cet après-midi. Nous remettons ce temps entier à toi. Merci Seigneur, je prie en ton nom, Jésus-Christ. Amen. J'ai préparé un PowerPoint pour voilà, le thème c'est la réalité de la foi se voit à la manière donc le chrétien contrôle sa langue. Voilà, j'ai raccourci sur le chrétien contrôle sa langue. Tout au long de l'histoire humaine, beaucoup de choses s'accomplissent par la parole. Le mot rhétorique qu'on associe parfois à éloquence était largement utilisé dans l'Antiquité. C'était une forme de pédagogie chez les Grecs. La rhétorique et l'enseignement déductif sont des outils qui permettent à une personne de communiquer plus efficacement. En général, quand deux personnes communiquent, elles n'ont pas beaucoup de temps pour préparer à l'avance ce qu'elles vont dire. Elles se contentent d'exprimer essentiellement des choses qu'elles savent, qu'elles pensent et les choses qu'elles veulent dire. Les paroles qu'on prononce sont étroitement liées à notre comportement. C'est pourquoi l'apôtre Paul demande à Timothée d'être pour les croyants, un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. En fait, la parole occupe une place fondamentale dans notre vie. Qu'on soit chrétien ou pas, nos paroles ont toujours un effet sur notre réputation, notre personnalité, et aussi sur notre carrière ou même sur celle des autres. Personne ne peut parler pendant une journée entière et peu de gens peuvent dire honnêtement qu'ils n'ont fait aucune faute en parlant au cours de leur journée. Les chrétiens ont changé de comportement après avoir cru au Seigneur, mais la bouche, elle, n'a pas changé. Il est clair que les paroles sont très importantes. Il y a sans cesse des leçons spirituelles à en tirer et les croyants ne peuvent pas l'ignorer. Nos paroles sont l'un des moyens de voir dans quel état est notre vie. À travers nos paroles, on peut voir également quel est notre état d'esprit et où nous en sommes en ce qui concerne notre esprit. Pour savoir s'il est réellement sous le contrôle du Saint-Esprit et donc si nous obéissons vraiment à Dieu. Ou bien est-ce que nos paroles montrent que la chair exerce son pouvoir sur nous. Dieu a créé l'homme avec deux oreilles et deux yeux, mais une seule bouche pour que les gens voient, écoutent et parlent deux fois moins que ce qu'ils écoutent et ce qu'ils voient. C'est que Jacques déclare au chapitre 1, verset 19, « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Ceux qui appartiennent à Dieu ne font pas de mal aux autres. Par leurs paroles, au contraire, ils sont capables de dire de bonnes paroles édifiantes pour les autres. Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Qu'aucune parole ma sienne ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. La lettre de Jacques n'est pas longue, seulement 5 chapitres et 108 versets. Mais au moins 20 versets sont directement liés à la parole. Jacques souligne que la foi sans les œuvres est morte, chapitre 2, verset 26. Mais nos paroles se manifestent aussi par nos actions et montrent notre foi. Dans la lettre de Jacques, chapitre 3, verset 1 au 12, on vient de lire, se trouve une discussion importante sur le thème de l'enseignement. Le discours n'est pas seulement lié au fait d'être un enseignant, mais il concerne aussi chacun chrétien. Car nous parlons tous les jours. Certains experts ont estimé que l'ensemble des paroles prononcées par une personne pendant une journée remplirait en moyenne une vingtaine de pages. Ce qui veut dire qu'on pourrait produire chaque mois deux livres de 300 pages. Ce veut dire qu'on pourrait produire chaque mois deux livres de 300 pages. Si on en fait 4 exemplaires par an, et cependant, 50 ans, on arrive à plus de 1000 exemplaires. Mais quel sera le contenu de ce livre? Combien de personnes seront prêtes à acheter votre livre? Même le patron de JB Jeune, il n'en veut pas, sûrement. Cet après-midi, je vais diviser ce sujet en 3 points. La capacité à maîtriser sa langue réveille l'état spirituel du chrétien. La langue ne doit pas prendre le contrôle de notre vie. La vie du croyant est un soi. Dans Jacques 3, verset 1, nous disons, mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. L'enseignant ici, ou le maître, est ce qu'on appelle Rabbi, qui enseigne la religion et les coutumes. Jacques demande au Rabbi juif qui enseigne d'être prudent. Pourquoi Jacques vise-t-il ceux qui veulent enseigner? Parce que si vous êtes un Rabbi et que vous parlez de la parole de Dieu et que vous vous trompez, les gens vont se rendre compte que vous n'êtes pas à la hauteur. Par conséquent, les rabbis à l'époque de Jacques devaient parler avec prudence. Il en va de même pour les pasteurs. Dans leurs discours et leurs prédications, et pour l'ensemble des chrétiens, nous devons tous être prudents, car parfois les non-convertis nous placent à un très haut niveau, car nous sommes des enfants de Dieu. Le peuple de Dieu, notre discours doit montrer que nous sommes chrétiens, c'est-à-dire que nous appartenons à Jésus-Christ. Soyez donc prudents dans vos paroles. Les paroles sont des outils de l'enseignant. Dans l'Église, l'enseignant utilise ses propres paroles pour enseigner la véritable parole de Dieu. L'enseignant est donc un modèle, un exemple pour l'Église dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. Ce que Jacques va dire par la suite est à appliquer dans toute l'Église pour tous les membres. Mais Jacques commence par ce qui enseigne de la part de Dieu. Nous n'avons plus de rabbi comme enseignant, mais dans les églises protestantes, nous avons des pasteurs, nous avons des prédicateurs, nous avons des moniteurs et monitrices d'école de dimanche. Et des groupes de jeunes, nous avons aussi des frères et sœurs qui dirigent les études bibliques. C'est à toutes ces personnes que Jacques s'adresse. C'est donc aussi à nous qui est enseignant dans l'Église que Jacques parle. Dans le premier chapitre Jacques, il est écrit qu'il est nécessaire d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu. Le deuxième chapitre parle de la relation entre la foi et les œuvres. Et cet après-midi, le troisième chapitre traite de la relation entre la parole et la vie spirituelle du chrétien. Si vous croyez en Jésus, votre discours, votre vie, votre comportement reflète votre religion. Si vous croyez en Jésus, votre discours, votre vie, votre comportement reflète votre religion. Il faut accorder une attention particulière à différents aspects de la relation entre nos paroles et nos actes. la cohésion entre la parole et les actes. Pour enseigner aux gens, il faut veiller à mettre en pratique ce que nous disons. C'est difficile de convaincre les gens s'il n'y a pas de cohérence entre nos paroles et nos actes. Si Dieu nous utilise pour enseigner aux autres le contenu de nos paroles et ce que Dieu nous demande, peut se retourner contre nous. La parole de Dieu nous donne un caractère plein d'humilité. Si quelqu'un connaît mieux que l'autre la parole de Dieu, lorsqu'il enseigne, il fait plus de progrès que l'autre personne. Mais plus qu'il va enseigner, plus il va se rendre compte qui doit d'humilier davantage et approfondir sa connaissance de parole de Dieu. La parole de Dieu nous incite à avoir des motivations pures. Il y a toujours des gens qui croient ce que l'enseignant leur dit et qui vont le mettre en pratique. Et en particulier dans l'Église, celui qui est chargé de l'enseignement doit s'assurer que ce qu'il enseigne est en harmonie avec la vérité biblique. Doit s'assurer que ce qu'il enseigne est en harmonie avec la vérité biblique. En fin de compte, est-ce que nous voulons promouvoir des opinions personnelles? Ou bien est-ce que nous voulons que tout le monde comprenne la volonté de Dieu et accomplisse sa volonté? Quelle est notre intention? Rien d'étonnant à ce que Jacques nous rappelle que celui qui instruit les autres est soumis un jugement de Dieu. Deuxième point, la langue ne doit pas prendre le contrôle de notre vie. Jacques 3, verset 4. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi le corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au cri du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vend de grandes de choses. Jacques nous présente deux images pour expliquer comment la langue dirige les choses. Le cheval avec son mort et le navire avec son gouvernail. De grandes choses dirigées et contrôlées par une petite chose. Il est possible de contrôler un cheval qui pèse 1000 kilos avec un petit morceau de métal qu'on appelle le mors. Le mors se place dans la bouche du cheval au-dessus de la langue. Et s'y reste sur la gencive inférieure. Le cavalier se sert des rênes pour faire pression sur le mors. S'il tire vers la droite sur le rêne, le cheval va tourner à droite. Quand le rêne est tiré vers la droite, le mors met la pression sur le côté gauche de la gencive. Le cheval est alors tenté de tourner à gauche, mais il ira à droite. Quand il finira par apprendre que s'il tourne à droite, la pression sur sa gencive qui provoque une sensation inconfortable. Il va s'arrêter. Et donc, finalement, le cheval est maîtrisé par le mont. Il obéit à la volonté du cavalier et non pas à sa propre nature. Si la langue du croyant est dirigée par l'esprit de vérité, Dieu peut l'utiliser. Le croyant, donc, la parole n'est pas contrôlée par Dieu et par sa volonté, et comme le cheval sans le mort. Il est incapable de se diriger dans la bonne direction et de se conformer à la volonté de Dieu. On peut voir que le fait d'apprendre à obéir à Dieu par nos paroles et d'être dirigé par Dieu est la première leçon de l'apprentissage de la vie chrétienne. Parmi toutes les leçons d'obéissance que nous devrons apprendre. L'image du navire est différente, mais l'idée est la même. Un membre d'équipage expérimenté est capable de savoir si le marin qui est à la barre est un novice ou quelqu'un qui a de l'expérience, car il rencontre souvent des difficultés pendant des tempêtes. Avec de grosses vagues lors de la navigation par mauvais temps. Quand le vent est très fort, le marin sans expérience n'arrive plus à contrôler le gouvernail. Par contre, s'il s'agit d'un marin vétéran, le vent violent est pour lui comme une simple prise. Et malgré les grosses vagues, il contrôle la situation. Ici, Dieu veut nous montrer que nous pouvons nous exprimer par des paroles, mais que nous devons constamment veiller sur nos paroles. Nous devons constamment veiller sur nos paroles. Nous devons constamment veiller sur nos paroles. Car les mots, tout comme le gouvernail d'un bateau, doivent être bien contrôlé. Sinon, cela fera des vagues. Nous avons le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui nous montre que nos paroles sont appropriées ou pas. Le mot et le gouvernail, voilà deux images de la langue qui contrôle et dirige la vie de l'homme. Dans ces deux images, nous pouvons noter qu'il existe aussi des forces extérieures qui agissent. La volonté et la puissance du cheval, d'une part, et le vent et la mer autour du navire, d'une part. Dans une situation difficile, nous ressentons parfois de la pression et nous avons tendance à ne pas dire la vérité. Pour garder l'avantage et nous sortir l'affaire. Nous avons tendance à ne pas dire la vérité. Pour garder l'avantage et nous sortir l'affaire. Nous avons tendance à ne pas dire la vérité pour garder l'avantage et nous sortir d'affaire. Je ne sais pas, vous avez cette expérience ou pas. Je fais souvent cette erreur. Quel est votre soi? Nous avons tendance à ne pas dire la vérité pour garder l'avantage et nous sortir d'affaires. Souvent, nous avons le désir de faire une bonne impression ou bien de conserver notre bonne réputation. Ce sont des forces extérieures qui vont influencer ce que nous disons en bien ou en mal. Souvent, nous avons le désir de faire une bonne impression ou bien de conserver notre bonne réputation. Avec la langue, on est capable de détruire beaucoup de bonnes choses. Avec la langue, on est capable de détruire beaucoup de bonnes choses. Selon nos soins. Jacques a écrit, voici comme un petit feu, peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la haine. Gêne. Ouais. La langue est donc aussi un feu qui détruit. Avec nos paroles, nous pouvons détruire. Nous n'y pensons pas beaucoup parce que le fait de parler est tellement naturel. Et donc, on ne réfléchit pas forcément à ce que l'on dit. Une petite hagot peut détruire une personne. Une critique négative peut détruire une personne. Une remarque ou une plaque inappropriée peuvent détruire une personne. Nous avons vraiment besoin de la grâce du Seigneur. Troisième point, c'est pour ça qu'on doit faire un soi. Troisième point, la vie du croyant est un soi. Quel est votre soi? Quel est nos sois? Jacques, chapitre 3, versets 11 à 12. Une source fait-elle jaillit par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Jacques utilise des mots qui font référence au goût. Sucré, salé et amer. Avec notre langue, on peut prononcer des paroles douces ou amères. Quel genre de résultat obtiendrez-vous selon les paroles que vous prononcez? La langue a autant d'influence sur notre environnement que la pensée. La langue a autant d'influence sur notre environnement que la pensée. Ce que nous disons reflète notre attitude et c'est ainsi que nous pouvons attirer l'attention des gens et obtenir les résultats souhaités. Le chrétien doit faire un choix là-dessus. Il y a un clinicien qui a étudié la cipsologie clinique à l'université de l'Illinois vers 1963. Il propose quatre modes d'expression nous devons éviter quotidiennement. Ce sont le mode d'expression absolu et la manifestation de la chair. Surtout, nous sommes dans la situation en colère. Par exemple, j'ai toujours fait comme ça. Depuis ma jeunesse, depuis aujourd'hui, je suis comme ça. On s'appelle ça, c'est la conversation attitude absolue. C'est expression antique des conditions absolues et strictes pour soi-même. Il n'y a pas de place ici pour la flexibilité ou bien l'exception. On n'accepte pas les gens qui donnent son conseil parce que mon avis c'est absolu. J'ai déjà fait un choix. Deuxième, le mode d'expression appelé polarisation. Définie de pôle ou de extrême. Dans ces expressions, bon, mauvais, ressuscite, défaite, gagné, perdre, vrai, faux, noir, blanc, il n'y a pas de jaune intermédiaire. Voilà, c'est difficile de parler tous ces gens-là qui peut trouver un terrain d'entente, parce que il a dans sa réponse c'est toujours sur cette expression là, de mode là. Le mode d'expression appelé individualisation. Ces expressions indiquent l'individu justifier ses actions parce que j'ai le droit de faire ça. Quand on parle, on a parfois tendance à exagérer l'importance des événements et leur influence négative. Donc, faites attention, est-ce que vous êtes sur ce mode de l'expression ou pas. Quatrième, le mode d'expression appelé permanence. Je sais pas, c'est difficile d'expliquer. Cette expression indique que les choses accidentelles et ou ponctuelles sont considérées comme étant permanentes. Vous êtes toujours comme ça. Ça me rappelle un jour, j'ai un dispute, c'est ça, avec Hélène. Il y a 10 années auparavant. Quand on est fâché vraiment, les deux, on trouve pas le terrain d'entente, mais tout d'un coup, elle a sorti un mot, Dieu est toujours comme ça. Voilà, permanent. Même, je ne fais pas attention, je casse un petit truc. Il dit, Dieu est toujours comme ça. Mais pourtant, auparavant, j'ai cassé une cuillère, mais aujourd'hui, j'ai cassé une bol. C'est différent. Dieu est toujours comme ça, casser les choses. Mais casser les choses de quoi? Quand tu tiens un cuillère ou quand tu tiens un bol, c'est différent. C'est permanence. Tu sors les expressions, c'est permanent. Condamné. Voilà, vous comprenez? Comprenez? Il y a les quatre expressions, il faut éviter. On ne sait pas est-ce que ça vous aide ou pas. Ah, voilà, je vais parler là. Nos mots, nos corps et notre pensée agissent ensemble. Ces quatre mots qui continuent notre pensée sont en connexion les uns avec les autres et affectent mutuellement. Les quatre types d'auto-langage intérieur ci-dessus sont irrationnels. Quand ils paraissent, ils affectent notre état d'esprit, contrôlent les émotions, puis produisent des comportements négatifs. C'est pour ça que on peut trouver sur Psaume, à Romains, Proverbe, qui nous a donné la bonne conseil. Psaume 141, verset 3. Éternel, garde ma bouche, veille sur la parole de mes lèvres. À offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Voilà, je termine. La réalité de la foi se voit à la manière dont le chrétien contrôle sa langue, basée trois points. La capacité à maîtriser sa langue révèle l'état spirituel du chrétien. La langue ne doit pas prendre le contrôle de notre vie. La vie du croyant est un soi. La question de réflexion, est-ce que vous avez déjà requêté une phrase que vous avez prononcée? Réfléchissez. Est-ce que vous avez déjà requêté une phrase que vous avez prononcée? Mince. Quand le soir tu dors bien, au bout de 3 heures du matin, tout d'un coup, mince. Une phrase. Qui sort. Saint-Esprit qui me parle. Est-ce que vous admirez les gens qui parlent bien? Autour de vous, je sais pas. Regarde votre côté. Est-ce que vous admirez les gens qui parlent bien? Quels sont leurs points forts? Quels sont leurs points forts? Est-ce que les gens pensent que vous parlez bien? moyens. Mais peut-être les gens n'osent pas le dire. Mais on tourne le dos. Est-ce que les gens pensent que vous parlez bien? Est-ce qu'ils vous apprécient? Voilà, ce sont les questions qu'on doit réfléchir. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce temps, merci pour ta parole qui nous éclairait notre chemin. Je demande à Seigneur qui donne la force, donne le courage de vraiment corriger notre comportement pour qu'on puisse vraiment être un bon témoignage, faire un bon témoignage pour toi, être un bon chrétien autour des gens qui ne te connaissent pas. Merci Seigneur. Je prie en ton nom Jésus-Christ. Amen.